et c'est notre rendez-vous pour l'émission Écriture dessinée. Bonjour Bruno.
Bonjour Marin. Alors aujourd'hui, le livre qui est au centre de l'émission, c'est Jésus aux enfers, signé par Thierry Robin. Trois jours de la vie du Christ dont les évangiles ne disent rien. Alors, Thierry Robin, avec ce livre, rejoint les quelques auteurs qui se sont confrontés aux textes sacrés, notamment ceux de la religion catholique. La Genèse de Robert Crumb ou Et Marie pleurait de Chester Brown sont les exemples les plus marquants. Thierry Robin met en image l'évangile de Nicodème. Il traite notamment de ces trois jours après la crucifixion et avant la résurrection. C'est la descente aux enfers de Jésus. Nous serons avec Thierry Robin à partir de 14h15 pour qu'il nous éclaire sur la création de ce récit, un des récits donc de la littérature biblique. A tout de suite.
Écriture dessinée.
Bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est Marin qui est en régie. Vous allez écouter successivement Charles Trenet, New Morricone et les Beatles. C'est un choix fait par Thierry Robin. Donc, vous les écouterez successivement. Et je voudrais donc encadrer aussi ce Jésus aux enfers par d'autres livres, dont le Ben Barka, la disparition de David Servenay, de Jacques Reynal, et puis le Que faire des Juifs de Johann Sfar. Mais je voudrais commencer par Mon lapin quotidien. Alors, Mon lapin quotidien est un trimestriel. Ben oui, c'est comme ça. C'est les joies du langage. C'est donc MLQ, le seul quotidien qui paraît tous les trois mois. C'est l'association qui est à l'œuvre, qui met en œuvre ce lapin quotidien. Vous vous rappelez certainement de la très belle série qui s'appelait Lapin, la très belle revue qui a eu un grand nombre de numéros et qui a permis de découvrir un certain nombre d'auteurs, à d'autres auteurs d'être pré-publiés. On avait même eu un numéro spécial pour le Festival de Montreuil pour la jeunesse. C'était une excellente revue. Mon lapin quotidien s'inscrit dans cette dimension, mais avec, bien sûr, tous les décalages essentiels pour que ce soit vraiment dans un autre projet littéraire. C'est un tabloïd. Alors le genre de tabloïd où si vous lisez ça dans le train, en l'ouvrant, vous êtes sûr de mettre un pain à votre voisin, parce que c'est grand. Et donc, ce très grand format qui est donc important, c'est le moins qu'on puisse dire, rien que pour le retourner, j'ai dû taper trois fois dans le micro. C'est un 12 pages, très grand format, avec, et ça c'est la force de l'association, une quantité d'auteurs, tous cités, qui vont être à l'œuvre dans dans cette revue. Alors, le grand format permet tout un travail de maquette qui est assez réjouissant et en tout cas pleinement assumé par l'association qui est à l'œuvre. Et ce principe, donc aussi bien d'un très grand nombre de signatures que d'une maquette avec un très grand format, permet ainsi de décaler cette revue de ce qui se fait principalement, ou généralement. Le bandeau, déjà, simplement, Mon lapin quotidien, avec à chaque fois une adaptation au thème du numéro. Et le 32e, l'hygiène. Sous-titres, ongles, page 2, linge, page 4, pureté, page 6, transpiration, page 9 et plastique, page 11. Donc, lorsqu'on ouvre, et là, vous avez votre banquette dans le métro pour vous tout seul, parce que vous avez pris la place qu'il fallait. Et donc, à chaque fois, on va avoir un travail de rubrique très, très pertinent, avec l'utilisation de dessins de petits formats, de plus grands formats, de chapeaux, d'articles. Il y a du rédactionnel, il y a tout ce travail donc de maquette avec le choix des polices de caractère, avec cette composition qui fait que ça fonctionne. Ce serait pas mal d'ailleurs que un certain nombre de revues aient cette même inventivité et cette même efficacité. Il y a un plaisir manifeste à tous les dessinateurs d'être présents dans la revue. Deux pages centrales qui sont en trichromie et qui vont ainsi donner une autre dimension au journal. Et c'est à chaque fois, un plaisir de se glisser dans chacun des articles, de découvrir comment telle signature qu'on n'avait pas vue depuis quelque temps retrouve ainsi toute sa place, toute sa dimension. Par exemple, là, il y avait des dessins de Placide, et c'est un artiste moi que j'aime beaucoup, mais je n'avais pas vu de choses depuis quelque temps, mais ça vient pas forcément de lui, ça vient aussi de moi. En tout cas, c'est un esprit très underground, mais très élégant, au sens où le dessin peut tout dire, le texte peut tout dire, mais il y a une façon et une attention pour le présenter qui fonctionne vraiment à merveille. Il y a un photomontage en page 1 pour illustrer ce thème de l'hygiène, qui est un photomontage de Jean Lecointre, et ça utilise le changement d'échelle, et ça nous met tout de suite en œuvre, tout de suite en disposition pour lire la suite. Alors, quelques précisions pratiques. Donc, ce dernier numéro a été publié le 1er avril, donc c'est, comme je vous l'ai dit en introduction, c'est un trimestriel, mais en tout cas, celui-ci se trouve généralement dans les librairies. Ce n'est pas du kiosque, c'est diffusé de la même façon que les livres de l'association, et c'est vraiment... C'est réjouissant. Moi, je félicite cette revue qui est tout de suite marquante dans le paysage de la presse underground actuelle. Ce numéro 32, donc, qui comporte un très très grand nombre de signatures, je ne les cite pas tous parce que l'émission n'y suffirait pas. J'essaie de vous trouver son prix. D'habitude, je le marque. 9 euros. Et c'est très bien. Parfait. Et l'imprimeur. Voilà, c'est loin. Donc je ne le cite pas. Mon Lapin Quotidien, MLQ, le seul quotidien qui paraît tous les trimestres, est fait par l'association Virgule. Alors, dans les œuvres qui vont encadrer ce Jésus aux enfers, je souhaitais présenter des livres dont le projet narratif pouvait avoir des liens directs, mais c'était aussi dans sa mise en œuvre, dans la façon de traiter le dessin, la façon d'utiliser le trait, sa tension, ou la mise en scène, le découpage. Et on va avoir des thèmes qui sont relativement proches, mais qui montrent en tout cas la fécondité de la bande dessinée aujourd'hui, ces écritures dessinées qui donnent ainsi à chaque récit de nouveaux nouveaux espaces narratifs et qui montrent vraiment que c'est un art extrêmement riche et inventif de ce 21e siècle. Poursuivons donc avec Ben Barka, La Disparition, qui est un récit documentaire dessiné, signé pour le récit de David Servenay et mis en image par Jacques Reynal, dit souvent Jack Reynal. Alors, le récit, bien évidemment, vous l'avez compris, va traiter de cette affaire Ben Barka, puisque le 29 octobre 1965, Mehdi Ben Barka, principal opposant au roi du Maroc, Hassan II. Il a rendez-vous à la brasserie Lippe à Paris avec trois personnes, Philippe Bernier, qui est journaliste, Georges Franju, cinéaste, et Georges Figon, producteur. L'enjeu de cette rencontre est la signature d'un contrat pour la production d'un film sur les luttes anticoloniales, écrit par Marguerite Duras et réalisé par Franju et produit par Ficon. Comme tête d'affiche, eh bien on a Fidel Castro, Che Guevara, Mao, Ho Chi Minh, Nasser. Vous imaginez le casting, et tout ça est orchestré par Mehdi Ben Barka. Bernier, un ami de Ben Barka, est à son corps défendant l'un des rouages du complot qui s'est mis en place, et Figon est un voyou, il est de mèche avec les comploteurs avant même d'entrer dans la célèbre brasserie. Ben Barka est interpellé sur le trottoir. Deux hommes se présentent comme des policiers. Il est embarqué dans une Peugeot 403, direction Fontenay-le-Vicomte, en région parisienne. On ne reverra jamais plus Mehdi Ben Barka. Maurice Butin, l'avocat de la famille Ben Barka, va comprendre très vite que l'enquête sur la disparition de l'opposant marocain va être très compliquée. Et c'est le moins que l'on puisse dire. Les questions restent d'actualité. Qui a tué Ben Barka? Dans quel but? Quel est le rôle des services marocains? Celui de la France? Et c'est le projet de ce Ben Barka, La Disparition, puisque la bande dessinée va montrer toute sa force et toute sa pertinence. Déjà simplement par la reconstitution des faits, la représentation de ce qui a pu se passer. Déjà ça, c'est limpide. Et le trait, le dessin de Jack Reynald va très bien fonctionner parce que on y est quand il dessine un boulevard parisien, celui où se trouve la brasserie Lippe. Bien, on y est. Il n'y a pas de problème. Il passe devant la brasserie Lippe. C'est vraiment une façon, grâce au dessin, de nous amener dans des lieux que l'on ne connaît pas, dont on ne se souvient pas, ou qui sont déjà à un moment passé. Et 60 ans après, on peut être tout à fait à proximité de ces lieux avec l'ambiance de l'époque. Deuxième force de la bande dessinée, c'est cette façon d'organiser l'enquête, d'en rendre compte, de présenter les entretiens qui vont permettre de répondre à un certain nombre de questions. Et toute une partie du livre est notamment consacrée au contexte politique, c'est-à-dire qui était Ben Barka, d'où venait-il, quelles étaient ses implications politiques, comment s'était-il opposé à Hassan II. Il y a à chaque fois toute la précision nécessaire et la mise en image que la bande dessinée permet pour donner corps et donner de la consistance à chacune de ces étapes, chacune de ces informations, et surtout tout au long du livre à cette enquête qui n'est pas terminée, parce que cette affaire, eh bien, n'a pas encore profité d'ouverture d'archives. Aucun président depuis donc Pompidou n'a voulu ouvrir les archives. Alors il y avait le délai légal, mais là nous allons arriver à ce qu'il y ait normalement une ouverture complète des archives pour qu'on puisse avoir les informations sur cette affaire qui mêle à la fois des policiers, des indiques, des petites frappes, des agents du contre-espionnage, des mafieux, dont un s'appelle Bouche Sèche. À chaque fois, il y a une sorte de difficulté à avancer et à démêler toutes les implications et toutes les complexités de cette enquête. C'est vraiment une écriture dessinée et Jack Reynald va sortir du cadre habituel de la bande dessinée qui est celui d'un découpage avec des bandes d'images, 3 ou 4 bandes avec parfois des superpositions d'images. Et il va donner à ces doubles pages une sorte de tonalité en pouvant faire varier la taille de cet espace narratif qui est constitué par le cadre qu'on trouve dans une bande dessinée. Alors il y a toujours ce cadre, mais parfois on a des espaces blancs avant ou après, parce que les informations de la double page vont être plus concentrées et vont permettre de faire des insistances, de faire des pauses, de faire des orientations, de proposer de nouvelles pistes, sans avoir à être sans arrêt dans ces intermédiaires, dans ces récitatifs qui nous permettent de passer de l'un à l'autre. Il y a l'utilisation, par exemple, de questions qui vont être posées pour pouvoir avancer sur cette connaissance de l'affaire Bernbarka, qui vont être représentées par un carnet sur lequel, sur la page, par exemple, de gauche, va être manuscrit la question, et on va tout de suite rentrer dans la représentation. Ça permet, avec ce style très direct, de trouver une lecture et une efficacité. Il y a une représentation des personnes interviewées, comme par exemple Maurice Butin, l'avocat de la famille. À chaque fois, il y a une personne qui va donc répondre aux questions. Il y a Bachir Bernbarka, qui est le fils de Bernbarka et qui a beaucoup œuvré pour la réalisation de ce livre, qui va aussi apparaître en portrait comme donc un des auteurs des questions. Et c'est vraiment très fluide dans la construction grâce à cette liberté que s'est donnée Jack Reynald sur la mise en page. Et puis il y a le dessin de Jack Reynald qui est un noir et blanc très tranché, il n'y a pas de gris, nous sommes que dans le noir et blanc. Donc avec cette volonté d'équilibrer les noirs sur l'espace de la double page, il y a aussi cette façon de saturer les lumières, et ça c'est donné par le blanc, donc on a le dessin avec le trait noir, avec des aplats noirs, qui va vraiment donner l'image avec le cadre de la case qui est tracée donc au trait. Et puis il y a cette façon de que les arrière-plans ou que la représentation monte comme une saturation de la lumière, et c'est très intéressant parce que ce serait en fait l'objectif d'amener sur cette affaire une lumière saturée pour qu'on ait une connaissance complète dans tous les détails de ce qui s'est réellement passé. Ce n'est pas encore le cas, c'est une étape parce que ça fait un point important. Il y a eu quelques avancées apportées par des journalistes ou un avocat, un juge, et c'est important d'avoir cette mise en image qui est en résonance avec le contenu même du livre. Il y a un dossier enfin qui reprend quelques éléments qui donnent des coupures de presse, qui montrent aussi quelques points complémentaires sur pourquoi cette enquête était si difficile. C'est un livre très pertinent de par sa forme, son contenu, et une étape avant qu'on ait toute la lumière sur l'affaire Ben Barka. Ben Barka, la disparition de David Servenay et Jacques Reynal. Les 160 pages de ce documentaire dessiné sont au prix de 23 euros et le livre publié par les éditions Futuropolis a été imprimé en Espagne. Musique.
C'est sans me voir, sans même me dire bonsoir. Donnez-moi un peu d'espoir ce soir. J'ai tant de peine. Vous, dont je guette un regard, pour quelle raison ce soir passez-vous sans me voir? Un mot, je vais lui dire, je vous aime. C'est ridicule, c'est bohème, c'est jeune et c'est triste. Aussi vous, c'est sans me voir, sans même me dire bonsoir. Donnez-moi un peu d'espoir. Les souvenirs sont là pour m'étouffer, de larmes, de fleurs, de baisers. Ah oui, je revois les beaux matins d'avril, nous vivions sous les toits, tout en haut d'eux, à la ville. Vous qui passez sans me voir,
avec Jésus aux enfers, Thierry Robin se crée un nouvel espace narratif et graphique. Il met en scène et dessine un épisode de la vie de Jésus. Entre sa crucifixion et sa résurrection, il passe 3 jours aux enfers. Nicodème narra cette descente aux enfers dans un évangile écrit en 140, mais écarté par l'Église en 363, puisqu'elle ne gardera que 4 évangiles qui constitueront donc le corpus canonique de ces récits. Celui de Nicodème est donc apocryphe. Thierry Robin met en scène Jésus aux enfers, sa rencontre avec Satan. L'auteur de Rouge de Chine compose un récit documenté, inspiré, toujours intense, où Jésus, dans cette descente, remonte le temps et rencontre les figures à rebours de l'Ancien Testament. Thierry Robin adapte son dessin, s'appuie sur 2 styles graphiques, questionne les représentations des littératures bibliques. Puissance des noirs, tension du trait, choix d'un rouge intense, mise en image libre, toujours en lien avec le récit. Thierry Robin s'était fait connaître avec Rouge de Chine, une série nourrie par sa connaissance et sa passion pour la Chine. L'auteur ouvre constamment de nouveaux projets narratifs, par exemple avec Koblenz ou Petit Père Noël, c'était déjà il y a quelques années. Nous sommes avec Thierry Robin pour qu'il nous révèle les processus de création sur ce Jésus aux enfers. Bonjour Thierry Robin.
Bonjour.
Alors, c'est quand même étonnant que... Expliquez-nous, parlez-nous un peu de cette rencontre avec l'évangile de Nicodème et comment s'est passée cette volonté, cette envie, comment est arrivée cette envie d'en faire un récit en images.
Eh ben, c'est toujours de longs processus pour en arriver à faire un livre. Comme vous l'avez dit, moi, mon but, c'est de ne jamais faire deux fois le même livre, de ne jamais faire de série, et de toujours chercher des nouveaux sujets pour apprendre des choses moi-même, comme disait Bertrand Tavernier quand il faisait le choix de ses scénarios. Et donc, c'est venu par un intérêt pour l'écriture des évangiles, dans un premier temps, c'est-à-dire comment ces textes ont été écrits, par qui, comment ils sont propagés. Et puis, c'était un sujet un peu trop complexe pour en faire un livre de bande dessinée. Et donc, au milieu de ces textes, je suis tombé sur ce récit qui est intégré à l'évangile de Nicodème, qui est ce texte de la descente de Jésus aux enfers, qui a été... ce qui est remarquable, c'est surtout qu'il a été populaire pendant 15 siècles. C'est quelque chose qu'on a vraiment... On peut difficilement imaginer ça, c'est-à-dire qu'il était connu partout, par tous les chrétiens, tous les catholiques, les orthodoxes surtout. Et puis il a été mis en peinture, dessiné, il était lu pendant dans les monastères, pendant les repas, enfin un texte connu de tous, vraiment. Et puis qui a disparu. Et donc mon envie, c'était d'en faire une adaptation en bande dessinée, la toute première adaptation de ce récit. Mon but aussi, c'était de remettre ce récit dans la chronologie des événements qui tournent autour de Jésus à ce moment-là. C'est-à-dire qu'après la crucifixion, il est mis au tombeau. Il y a cet épisode où pendant les 3 jours au tombeau, il descend aux enfers, et puis à la fin, quand sa mission est terminée, c'est-à-dire quand il a sauvé les âmes de toutes les personnes mortes qui sont dans un lieu appelé le Shéol, il remonte à la surface et puis il reprend le cours de son parcours terrestre jusqu'à l'ascension. Et ce qui est intéressant de voir, c'est la grande logique de cet ensemble, c'est-à-dire que ce récit apocryphe, qui, oublié maintenant, s'intègre parfaitement à la chronologie des événements de ce moment de vie de Jésus.
Alors, qu'est-ce qui est visuel dans ce récit ? Est-ce qu'il y avait vraiment une possibilité de se représenter ce qui se passait, comme on a pu le faire, par exemple, pour le chemin de croix ou pour la crucifixion ?
Effectivement, il y a très peu de choses visuelles dans cet apocryphe et comme dans le Nouveau Testament. Enfin, l'épisode de la Passion est très très peu descriptif, tout comme le texte que j'ai adapté. Et donc, on a confié ça à des artistes pendant des siècles qui ont fait des images et des chemins de croix, enfin... ce genre de choses. Donc je reprends un peu le relais, c'est-à-dire que d'un texte assez sec qui nous donne des listes des personnes, par exemple, que Jésus va croiser. C'est une seule phrase dans le texte d'origine, on dit Jésus rencontre Noé, Moïse, et puis il descend au fin fond de ce lieu et il rencontre Adam et Ève. Voilà. Dans le texte, il n'y a que ça, et donc c'est à moi après de faire tout un travail passionnant de mise en page, d'écriture, de dialogue entre tous ces personnages. Il faut qu'ils vivent, il faut qu'ils aient des choses à dire, et puis aussi que chaque rencontre soit différente l'une de l'autre. Donc... voilà, ça c'est le travail d'auteur de bande dessinée qui me passionne depuis toujours.
Alors Thierry Robin, bon, vous avez commencé à parler de cette appropriation du récit, mais comment s'est passée cette phase d'écriture? Quel a été votre corpus de livres, quelle bibliographie? Comment vous avez parlé d'images faites par des enlumineurs, certainement. Donc, comment avez-vous travaillé pour écrire?
J'ai fait un livre sur la mort de Staline, j'ai fait un livre historique sur la Chine, mais je travaille toujours un peu de la même façon, c'est-à-dire qu'avant de faire le moindre dessin, il y a un gros travail de documentation. Je réunis 1000 images, je me sers de très peu ces images en fin de compte, de textes, beaucoup de lectures forcément sur un sujet comme ça, donc ça veut dire lire les évangiles, l'acte des apôtres, enfin tous les textes qui constituent le Nouveau Testament, et puis aussi les interprétations, parce que beaucoup de choses ont été écrites sur ces textes. C'est un travail de construction comme ça, fait de petites choses des fois, beaucoup de débats aussi, j'ai écouté beaucoup de débats sur la chaîne KTO par exemple, qui sont disponibles sur YouTube, et des fois un mot seulement, Je le note vite dans mon cahier et puis ça va pouvoir développer une page, une séquence, une réflexion d'un personnage. C'est comme ça qu'on construit n'importe quel récit, je crois, mais celui-là était sûrement celui que j'ai fait de plus difficile. C'est un sujet délicat, la vie de Jésus, surtout que mon but, c'était, comme je le répète et comme c'est écrit dans le livre, et j'espère comme ça transparaît du livre, c'est-à-dire que c'est un travail tout à fait respectueux des Écritures, des Évangiles, mais je ne voulais rien lâcher sur un traitement tout à fait personnel que je collais sur ce récit, c'est-à-dire j'ai essayé d'y mettre de l'humour. Il y a toute une partie où il y a une confrontation entre Jésus et Satan, et j'avais envie de faire vivre Satan à ma façon, c'est-à-dire un personnage malicieux, méchant par moments, et puis cynique. Il fallait mêler comme ça respect et travail d'auteur, et ça a été vraiment aussi passionnant à faire.
Thierry Robin, comment se passe l'écriture des dialogues dans un tel ensemble? À quel moment arrive-t-il?
Tout se construit ensemble. J'ai un grand cahier où je note justement des éléments utiles et puis des briques de dialogue qui me viennent. Après, quand un premier travail de découpage se fait, je savais par exemple que j'avais 100 pages pour raconter la totalité de l'histoire. Donc je découpe par chapitre le projet. Je commence à faire des croquis pour certains éléments. Par exemple, c'est dans le récit de Nicodème. Il y a, par exemple, un moment où Satan révèle à Jésus que c'est lui l'instigateur de sa crucifixion. Et donc, il l'emmène dans un endroit, pareil, dans le texte d'origine, il y a très peu de descriptions, mais dans un endroit où il lui montre le bois, dans le tronc d'arbre dans lequel a été taillé les deux poutres sur lesquelles il était crucifié. Il l'emmène un peu plus loin pour lui montrer l'endroit où ont été fondus les clous avec lesquels il a été crucifié également. Et donc voilà, à partir de ça, je commence à faire des croquis et je glisse ces éléments-là à l'endroit dans mon cahier où sera traité ce moment de l'histoire. Et puis quand j'ai une idée de dialogue, je l'écris tout de suite aussi pour être sûr de ne pas l'oublier. Et puis, ensuite viendra un travail de rédaction de l'ensemble du livre, page par page, qui mènera à la narration finale.
Thierry Robin, est-ce que vous utilisez la voix pour finaliser vos dialogues? Est-ce qu'une fois que les dessins sont faits, est-ce que vous les reprenez pour leur donner une dernière, les dernières retouches pour qu'ils collent parfaitement aux images? Comment ça se passe?
À la façon de Flaubert qui hurlait ses textes. Non, je ne fais pas ça, ça reste dans ma tête. Parce que je sais que le lecteur aussi ne va pas entendre le texte, il va le lire. Donc c'est une approche très différente quand on écrit un texte qui va être lu pour un discours ou pour une pièce de théâtre, et un texte, des dialogues que l'on sait seront lus et les voix se feront dans la tête du lecteur. C'est un travail assez différent. J'écrirai des pièces de théâtre, forcément je passerai sûrement par cette obligation de lire moi-même à haute voix les textes, mais je pense qu'en bande dessinée ça ne s'impose pas. Le texte peut être assez précieux, même par exemple, par moment, puisqu'on sait qu'il sera lu et lu de façon attentive. Il n'aura pas à avoir l'impact d'un texte qui sera lu en public, par exemple.
Thierry Robin, je vous propose une pause musicale, donc avec Ennio Morricone que vous avez choisi, et on se retrouve donc dans quelques minutes. À tout de suite. Vous êtes sur Radio Escapade dans l'émission Écriture dessinée. Nous sommes avec Thierry Robin à l'occasion de la parution de son dernier livre « Jésus aux enfers, trois jours de la vie du Christ dans les évangiles, dont les évangiles ne disent rien ». Thierry Robin, le dessin est puissant dans « Jésus aux enfers » et vous avez convoqué deux styles graphiques dont celui du récit de cette descente aux enfers qui va démarrer donc avec le réveil de la crucifixion, puis le réveil de Jésus-Christ au tombeau. Et puis on a les éléments, quelques résumés de sa vie qui sont dans un autre style où le noir n'a pas d'aplat. Pourquoi ce choix ? Alors, je ne veux pas vous poser des questions embêtantes, mais c'est qu'est-ce que ça impose, en tout cas, un choix comme ça?
C'est pas embêtant, c'est justement aussi pour ça que je fais de la bande dessinée, c'est pour prendre une histoire et puis tordre ou adapter mon dessin face à la narration que demande l'histoire. Et là aussi, c'est absolument passionnant à faire, c'est-à-dire que on peut appeler ça un flashback, Jésus est au tombeau, il se réveille, il revoit des bribes de sa vie, parce que le choc de la crucifixion a dû être terrible, donc j'imagine qu'il a besoin de reprendre ses esprits. Et donc graphiquement, ça me semblait intéressant de modifier un petit peu mon dessin. Donc là, on est un dessin en hachure, avec deux couleurs uniquement pour colorier cette séquence. J'ai toujours fait ça dans mes livres, c'est-à-dire, par exemple aussi, intégrer des éléments... d'époque dans ce livre-là même. C'est pas vraiment d'époque, mais on a quelques éléments d'architecture romane. On commence le livre aussi avec des gravures un peu inspirées de Jérôme Bosch qui amène des pages de garde à l'intérieur du récit. Enfin, voilà. Le jeu avec les couleurs aussi. Effectivement, j'ai une palette extrêmement mesurée quand ils sont dans cet endroit qui s'appelle le Sheol, qui est un endroit sombre, silencieux, un endroit de mort où sont enfermées toutes les âmes des gens qui sont morts depuis les débuts des temps. Et puis évidemment, quand Satan entraîne Jésus en enfer, justement dans ce monde de damnés, là on a une palette colorée tout à fait différente. Et puis à la fin du livre aussi, comme on est... Au moment de l'ascension, on retrouve une palette colorée qui n'a pas été utilisée avant pour donner aux spectateurs ce sentiment de plénitude, de mission accomplie et d'envoler de Jésus vers son Père.
Comment travaillez-vous votre découpage, Thierry Robin ? Parce qu'il y a vraiment une volonté que chaque double page ait à la fois une unité, une intensité, qu'il y ait aussi des compositions différentes. Comment travaillez-vous ce découpage ?
Eh ben, c'est sûrement ce qui me prend le plus de temps et le plus de satisfaction, c'est-à-dire qu'une fois le récit écrit, dialogué et composé sur, par exemple pour ce livre, sur les 100 pages que j'ai à ma disposition, je vais essayer de rythmer le livre graphiquement avec plusieurs types de mise en page. C'est-à-dire que quand Jésus descend dans le Sheol pour rencontrer les patriarches, j'utilise des doubles pages, pour montrer un petit peu le chaos de sa descente dans des endroits escarpés. Par contre, à d'autres endroits, quand il retrouve par exemple ses compagnons après la sortie du tombeau, j'opte pour une mise en page beaucoup plus classique, comme beaucoup de bandes dessinées, en 3 bandes, quelque chose de très régulier, parce que à ce moment-là, la narration, le récit, qui ne demande pas quelque chose de trop extravagant, mais plutôt de revenir à quelque chose de tranquille, et qui va aussi de cette façon indiquer au lecteur que on a repris une marche plus classique des événements. Voilà, en tout cas, jouer avec la mise en page, je pense que c'est et la couleur, comme je disais tout à l'heure, c'est un impact comme ça sur faire comprendre au lecteur ce qui se passe aussi à l'intérieur du récit. Et c'est aussi un grand plaisir en tant qu'auteur de jouer avec tous ces éléments-là.
Il y a une double page dans Jésus aux enfers où on a cette scène de foule incroyable où donc Jésus se retrouve au centre de l'admiration ou en tout cas de demande d'un très grand nombre de fidèles. Comment on se lance dans une telle image? C'est impressionnant quand même, parce que vous n'éludez pas du tout la difficulté, vous y allez à fond.
Oui. Ben, moi, je ne fais pas... il faut que je représente les choses. Donc, je pourrais faire comprendre au lecteur qu'il y a des milliers de personnages sans avoir à les dessiner. Je le ferai, mais ça, je ne sais pas faire. C'est mon côté un peu scolaire et laborieux, c'est-à-dire je dessine les choses. Et là, il fallait que cette double page, elle a un impact terrible, parce que c'est la première fois, justement, qu'il arrive dans le Sheol et il va rencontrer ces milliers, millions de personnes, je ne sais pas exactement en combien, mais qui ont vécu sur Terre depuis la création des temps, hein, suivant la Genèse. Et c'est ces gens-là qui... Il a pour mission de mener au ciel, après son sacrifice sur la croix, enfin, comme c'est le récit biblique. Et donc, il ne tient à oublier personne, c'est pour ça qu'il rencontre cette masse de gens absolument incroyable. Voilà, il fallait faire une image qui frappe et qui montre tous ces gens qui ont vécu sur Terre depuis Adam et Ève, qui sont morts pendant le déluge, alors que Noé est sur son arche, ça fait beaucoup de monde. Et donc, voilà, pour faire une image comme ça, je me mets en tête que je vais passer une petite semaine à dessiner tous ces visages. Et ce n'est pas un souci pour moi, parce que ce travail, il est au service du livre. Donc, je suis prêt à prendre le temps qu'il faut pour faire les choses au mieux.
Quel dessinateur êtes-vous, Thierry Robin? Parce que vous avez un trait tendu qui permet effectivement de porter avec intensité les différentes scènes, chaque image. Dans quel état d'esprit êtes-vous au moment de dessiner, de tracer ou d'ancrer?
Certes, j'essaie de garder une certaine nervosité à mon dessin. Pourtant, je suis né dans la bande dessinée franco-belge, tout ce qui est plus classique, hein, dans un style rond avec des pleins et des liés. Et puis, j'ai commencé à dessiner comme ça, d'ailleurs. Et puis, il y a un moment, je me suis dit, ben non, les plus grands maîtres, Franquin, Uderzo, ont utilisé ce style et je n'arriverai jamais à faire aussi bien qu'eux. Donc, cherchons quelque chose de différent. Et donc, par petites touches, en essayant différentes techniques, différents moyens d'ancrage, que ce soit la plume ou le stylo bille, j'ai beaucoup ancré le stylo, je suis arrivé à un style un peu plus agressif, cassé, anguleux, qui colle relativement bien avec les histoires que je raconte. C'est généralement pas des histoires très faciles, j'ai fait... des livres où il y a des guerres, des conflits. Là, on a cette descente sous terre qui n'est pas facile. Donc, je pense qu'un dessin comme ça, un peu acéré, colle assez bien avec le fond de l'histoire.
Une dernière question, Thierry Robin. Et le noir? Vous avez vraiment des noirs puissants? Il y a beaucoup d'auteurs qui ont du mal avec le noir. Par exemple, Skuyten expliquait dans différents interviews qu'à un moment, c'était pour lui impossible. C'était très difficile. Ou Juillard, pendant longtemps, a évité ces grands aplats noirs. Comment vous aimez cette couleur, Thierry Robin?
Ben moi, c'est même exactement le contraire. Il n'y en a jamais assez. Effectivement, c'est pas facile au début quand on commence. Je me souviens de mes premiers livres. On hésite à mettre du noir parce que quand on met du noir sur un visage et que c'est pas bon, on n'a pas de moyen de revenir en arrière. Hein. Il faut refaire le dessin. C'est intimidant mettre. Puis voilà. Puis c'est une pratique qu'on apprend. Je regarde d'autres dessinateurs. Principalement des dessinateurs de la fin du 19e, début 20e, qui travaillaient aussi avec des belles masses noires comme ça. Et puis on apprend et on devient un peu plus audacieux. En tout cas, moi je fais les livres pour le noir et blanc. Après, ils sont mis en couleur, mais Mon travail principal, c'est d'avoir une page qui soit extrêmement solide en noir et blanc. Ça permet aussi de rythmer ces masses noires. Il faut les rythmer. Si tout est noir tout le temps, c'est pas très intéressant. Donc, dans le livre, par exemple, quand il sort du tombeau, on est en pleine lumière. Mais quand il est dans des endroits plus tendus, j'utilise cette masse noire, là encore, pour un souci narratif, pour indiquer au lecteur ce qui se passe dans le cœur des personnages. Ça, tout doit concorder à ça, que ce soit la mise en page, la couleur ou le noir, la masse de noir utilisée.
Merci beaucoup Thierry Robin. Je vais rappeler les références de votre livre « Jésus aux enfers » dont vous avez assuré l'écriture, le dessin, la mise en couleur, le lettrage aussi, je suppose.
Oui, tout. La documentation. Je remercie aussi, il y a tout un travail de notes que j'ai écrit,
oui.
Justement pour, il y a une présentation au début, il y a une postface, il y a tout un travail de notes pour montrer le sérieux de l'entreprise, on va dire, et puis aussi si des gens veulent aller un petit peu plus loin dans leur lecture. Il y a tout un appareil comme ça, de bibliographique ou de notes, pour en savoir un peu plus sur ce qui est raconté dans l'histoire.
C'était effectivement une précision très importante. Merci beaucoup Thierry Robin. Je rappelle aussi que le prix de ces 120 pages est de 23,75 € et que le livre a été imprimé en Belgique. Très bonne continuation.
Merci. Un grand merci de votre accueil et
merci.
Bonne lecture à tous.
Oui, merci, au revoir. I'm a loser. I'm a loser. And I'm not what I appear to be. Of all the love I have won or have lost, there is one love I should never have crossed. She was a girl in a million, my friend. I should have known she would win in the end. I'm a loser, and I love someone who's near to me. I'm a loser, and I'm not what I appear to be. Although I laugh and I act like a clown, beneath this mask I am wearing a frown. My tears are falling like rain from the sky. Is it for her or myself that I cry? I'm a loser, and I lost someone who's near to me. I'm a loser, and I'm not what I appear to be. Have I done to deserve such a fate? I realize I have left it too late. And so it's true, pride comes before a fall. I'm telling you so that you won't lose all. I'm a loser, and I lost someone who's near to me. I'm a loser, and I'm not what I appear to be. Alors, je voudrais terminer cette émission avec un autre auteur qui a comme ça une volonté d'écrire, de partager, de questionner. Il s'agit de Johann Svar et notamment de son dernier livre, Que faire des Juifs, qui a quelques mois, mais je souhaitais absolument vous le présenter. Alors, c'est une question qui est une question lancinante que qui a été posé depuis les 3000 ans de l'histoire des Juifs. Et comme à chaque fois, Johann Sfar va prendre les questions à fond, répondre avec l'érudition nécessaire. Parce qu'il y a bien une chose qui est souvent crispante, c'est que par rapport à cette question, aussi bien de l'antisémitisme, de l'anti-islamisme, de cette volonté d'attaquer les religions, il y a une sorte de méconnaissance qui est souvent crasse. Et donc, Johann Sfar a cette capacité à mettre en scène ces interrogations qu'il peut y avoir, et notamment au sein de la communauté juive. Et ce livre est basé sur une transmission, sur celle du père de Johann Sfar à son fils. Le père de Johann Sfar était l'auteur d'une émission, l'Histoire des Juifs, qui était très érudite et qui a donné des échanges avec son fils, qui lui avait l'instruction que l'on pouvait avoir dans les cours d'enseignement de la religion juive, et ça donne des dialogues réjouissants parce que on a toute cette importance de la transmission, de comment il y a le doute qui finalement pouvait s'insinuer dans l'esprit du jeune garçon, comment il apprend à utiliser toutes les informations, toute la dimension intellectuelle associée au discours, associée donc au judaïsme, et comment Johann Sfar va aussi se livrer, comment il va montrer que à partir de cette transmission, comment il s'est construit, comment elle reste finalement constamment à l'œuvre avec le regard sur les situations d'aujourd'hui. Johann Sfar se donne un livre d'ampleur pour aller au fond des choses, pour pouvoir être vraiment dans une sorte de questionnement, mais qui ne se veut à aucun moment être une vérité, mais qui au contraire va montrer tout ce qui est nécessaire à la fois à la compréhension, mais à la possibilité d'avancer dans ses points de vue, sans pour cela devenir sur des points catégoriques. Et ce qui est intéressant, c'est que par exemple, il y a une scène où il est avec des amis juifs, mais qui ont un discours très, très radical, anti-palestinien, et comment il essaye et il montre les blancs de l'argumentaire, et là où il y a des exagérations. C'est ce qui rend cette lecture absolument étonnante, c'est que c'est un mouvement continuel où sont convoqués un ensemble de personnalités, d'amis, de connaissances, de personnes qui ont écrit, qui ont eu des points de vue essentiels, d'événements, de citations, d'hommes politiques, et on est constamment dans cette réflexion, et Johann Sfar va vraiment ouvrir l'espace du regard, de la réflexion et de la compréhension. Il y a tout au long de ce livre, cette question de la transmission et des contradictions possibles sur ce que l'on peut dire de l'histoire des Juifs et de qui est qui. Donc à chaque fois, la question lancinante, que faire des Juifs? il y a toujours cette question de qui parle, de quel point de vue, avec cette façon récurrente de montrer que on est finalement cerné par la haine. Il y a quelques points essentiels, comme par exemple sur cette façon de rappeler, mais la paix va se faire à deux. Et donc, finalement, c'est on doit discuter avec la personne avec qui on n'est pas d'accord. Si on veut pouvoir faire la paix, c'est essentiel que les deux opposants puissent un jour se parler. Et tant qu'il n'y aura pas cette volonté-là, eh bien, la paix ne pourra pas être là. C'est une évidence, et puis pourtant, eh bien, on est toujours très loin de ça. Il y a une volonté aussi très large, par exemple, la façon dont on a évoqué les juifs nazis, cette façon et cet amalgame qui a été fait à différentes reprises et qui montre aussi souvent une pauvreté d'argumentaire. Et à chaque fois, là, toute la difficulté est de pas déraper, de pas simplifier, d'être toujours dans la même précision, la même exigence intellectuelle et la même volonté de que le débat reste complètement ouvert. Tout ça être mis en œuvre par un auteur de bande dessinée. C'est véritablement une écriture dessinée. Johann Sfar a fait les Beaux-Arts, a donc travaillé énormément sur le modèle, sur la représentation. Il a acquis avec le nombre de livres et le nombre de pages une efficacité dans son écriture dessinée qui fait que chaque image est immédiatement lisible, elle est très stylisée, c'est le dessin à proprement parler de Johann Sfar, mais à chaque fois il y a une justesse dans l'expression qui fait que l'intensité du dessin va tout le temps équilibrer aussi l'intensité du propos, et on est loin d'être dans une situation où le dessin va être purement illustratif. Il y a à chaque fois des questions de dessin, de représentation de ce qui est en jeu dans le texte, et qui fait que là aussi à chaque fois, eh bien, on est dans cette écriture dessinée. On n'est pas simplement dans un texte qui choisit l'illustration, le dessin pour faire passer sa quantité. Il y a simplement, par exemple, dans les dessins entre le père et le fils, toujours cette question de transmission sur les proportions, sur la façon dont Johann va se dessiner enfant par rapport à ce père et sa connaissance. C'est donc un dessinateur qui a du talent. À un moment, il cite Reiser et il va dessiner comme Reiser une situation très radicale. Mais sinon, tout le reste de ce récit montre beaucoup d'empathie, beaucoup de générosité, beaucoup d'amour aussi pour ses prochains, ses façons de faire aux femmes de très grands yeux, d'avoir cette tendresse qui émane de dessins avec des mères et leurs enfants, des situations de complicité où le dessin est fort et puissant. Puis il y a le découpage, c'est une base tout à fait classique, c'est une construction d'une grande simplicité, mais sur lequel bien Johann Sfar ne fait pas de fantaisie. Il garde ce dispositif qui lui permet d'avoir parfois des textes importants, d'avoir des bulles qui sont systématiquement écrites de sa main, et qui fait qu'on a un lettrage extrêmement vivant qui est sur un point d'équilibre assez étonnant où trop rapide et il serait moins lisible et trop trop précis, trop besogneux et il provoquerait de l'ennui. Et là on est vraiment sur ce point d'équilibre où il y a ce côté incisif dans le lettrage qui est en résonance avec celui du dessin. Une écriture dessinée qui poursuit son écriture sur être juif aujourd'hui. Le précédent livre important était « Nous vivrons ». Et là, c'est « Que faire des juifs » qui revient donc sur ces 3000 ans d'histoire ponctués comme un fil rouge des rencontres qui ont émaillé la vie de Johann Sfar. Il y a la possibilité d'écouter les émissions du père de Johann Sfar sur l'histoire des Juifs, puisqu'elles sont disponibles sur le site d'Akadem. Que faire des Juifs de Johann Sfar est un livre publié par les Arènes Bande Dessinée. C'est un livre d'ampleur, 576 pages. Son prix est de 39 euros. C'est paru au mois de janvier. Mais alors, qu'il soit du mois de janvier, de février, d'avril, mais c'est un livre remarquable. Bonne semaine à tous. Merci Marin pour cette émission. Et continuez sur les ondes de Radio Escapade.
Écriture dessinée.